L'immobilier, partie prenante de la mobilité renouvelée, une table ronde au service du développement de territoires plus responsables et plus désirables sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour à tous. Le groupe prospectif du plan bâtiment durable, réflexion, bâtiment responsable et territoire, a lancé une nouvelle réflexion ayant pour thème l'immobilier, partie prenante de la mobilité renouvelée. Un travail qui vise à identifier les nouvelles relations à développer entre bâtiment et mobilité au service du développement de territoires plus responsables et plus désirables. Pour en parler, le co-président de ce groupe de travail, Christian Clairet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Également en plateau, Jonathan Seban, directeur général de Sogaris. Bonjour.
Bonjour.
Avec nous également, Jean-Louis Michika, vous êtes senior fellow à la London School of Economics et responsable éditorial du think tank Terra Nova. Merci de passer par le studio, Jean-Louis Michika. Bonjour.
Bonjour.
Et puis également, pour participer à cette discussion, Dominique Perrault, architecte urbaniste, président fondateur du cabinet Dominique Perrault Architecture. Dominique Perrault, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Christian Clairet, je le disais, c'est un sujet dense qui s'inscrit sur le long terme parce que le logement et la mobilité, ce sont les postes de dépenses les plus lourds pour les ménages, des secteurs qui comptent à eux deux pour 80% de la consommation énergétique mondiale et sont donc responsables de 49% de la production des gaz à effet de serre. Et puis, on se rend compte qu'ils se sont développés chacun chez soi, sans amorce d'une connexion entre eux. Alors, c'est votre piste des réflexions dans ce groupe de travail ?
Absolument. D'abord, dans le prolongement du propos introductif que vous teniez, rappeler pour nos auditeurs que l'ambition de ce groupe, c'est d'être une sorte de phare à longue portée, un agitateur d'idées. Son ambition, c'est d'aider la profession immobilière, l'industrie immobilière, à se préparer aux évolutions de long terme. Or, il nous est apparu, vous avez rappelé les enjeux, que immobilier et mobilité ont des liens extrêmement étroits et représentent à eux deux réunis des enjeux absolument considérables à l'échelle mondiale, près de trois quarts des consommations énergétiques et près des trois quarts des émissions de carbone, hein, des émissions de CO2. C'est dire à quel point une vision globale sur les deux sujets nous paraît essentielle, alors même que ces deux industries se développent depuis des décennies dans des silos très étanches l'un par rapport à l'autre et dans des gouvernances très indépendantes l'une de l'autre. Ceci nous a conduit, le groupe RBR, qui est un groupe permanent, qui existe depuis de nombreuses années et qui antérieurement travaillait essentiellement sur le bâtiment, ceci nous a conduit à étendre notre regard sur le territoire et donc à travailler ce thème de la mobilité des personnes et des biens. Et nous avons produit une note de synthèse dont l'industrie a pu se saisir, qui est une note de réflexion, non pas une note de solution. Nous mettons en lumière les sujets, les enjeux à l'industrie d'entretenir, aux industries immobilières et de la mobilité, maintenant d'enrichir le débat, de se saisir des questions.
Et vous avez rajouté la dimension responsable.
Et d'y rajouter la dimension responsable, bien évidemment. Alors, on a identifié quelques pistes qu'on a rassemblées en trois grands thèmes qui donnent lieu à chacune de nos émissions. D'une part, la grande question du moins de mobilité, moins d'immobilier, enfin, comment éviter, plutôt que de déplacer, vous connaissez la formule de l'ONU, Void Shift, etc. C'est le premier grand sujet. L'autre grand sujet, c'est la question de la relation publique-privée et de la gouvernance en général, des gouvernances indépendantes aujourd'hui indépendantes. On n'a pas la solution et on prétend pas que le sujet soit simple. On a Jean-Louis Michika qui opine du chef en m'écoutant. Et puis enfin, ce sujet de la nouvelle relation entre l'espace public et l'espace privé, entre le sol et le sous-sol, aussi bien au regard des transports de personnes que de biens. Et nous avons aujourd'hui un plateau dont je me réjouis et je remercie tous les intervenants qui représentent parfaitement tous ces enjeux, compte tenu de l'expérience de Jean-Louis Messica à la mairie de Paris, de Dominique Perrault et de son laboratoire sur la réflexion sur les sous-sols, et Jonathan à la tête de la Sogaris qui pourra nous parler.
Alors, on rentre dans le vif du sujet, puisque vous citez Jean-Louis Missika, je me tourne vers lui. Je rappelle que vous avez été membre du Conseil de Paris, adjoint au maire de Paris, Anne Hidalgo, chargé de l'urbanisme, de l'architecture, des projets du Grand Paris, et l'initiateur, des appels à projets urbains innovants, réinventer Paris. Pour réinventer Paris, vous aviez en tête ces éléments qu'on vient de citer ?
Ah oui, bien sûr. Je pense que nous vivons une sorte de révolution urbaine. Vous savez que les villes sont parmi les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. On dit souvent, mais je crois que c'est vrai, même si ça devient une banalité, que les villes sont à la fois le problème et la solution, parce que c'est dans les villes que l'on va trouver un certain nombre de solutions, d'abord à travers l'innovation et puis aussi à travers l'exploitation de la densité et l'exploitation de tout ce qui est déjà là. Et le déjà là, c'est peut-être l'avenir des villes, hein, la façon dont on va le reconvertir. Je pense que Dominique va en parler beaucoup, mais réinventer Paris, le deuxième appel à projet urbain avait un sous-titre qui s'appelait « Les dessous de Paris », parce que l'idée, c'était de mettre à la réflexion des architectes, des urbanistes, des chercheurs, un certain nombre de lieux de Paris qui soit étaient désaffectés, soit allaient être en voie de désaffectation. Je pense notamment au parking, c'est-à-dire que moins vous avez de voitures, moins vous avez besoin d'endroits pour ranger ces voitures. Je rappelle qu'un véhicule automobile est immobile pendant 95% de sa durée de vie. Et donc il faut stocker les voitures de façon démentielle uniquement pour que les gens puissent l'utiliser pendant 5% de leur durée de vie. Et bien sûr, c'est cette question fondamentale. Le 19e siècle a été le siècle où on a commencé à se dire les sous-sols, ça doit servir à gérer un certain nombre de services urbains. Alors on a enterré, qu'est-ce qu'on a enterré ? On a enterré d'abord les égouts, et grâce au génial baron Haussmann, on a fait des égouts visitables à Paris, ce qui fait qu'aujourd'hui, la fibre optique à Paris, elle passe par les égouts, ce qui fait qu'on n'a pas été obligé de défoncer les trottoirs.
Merci monsieur Haussmann.
Merci monsieur Haussmann pour faire les égouts. Alors c'est important parce que quand on dit ne pas se déplacer, clairement, ça veut dire travail à domicile, et travail à domicile, ça veut dire qualité de la connexion Internet. Et puis après ça, on a enterré les autres réseaux, on a enterré le réseau du gaz, le réseau électrique, etc. Et puis quand la révolution automobile est arrivée, on s'est mis à faire d'immenses caveaux, si j'ose dire, tombeaux pour des voitures. Ces parkings, certains d'entre eux étaient désaffectés. Nous les avons mis en compétition dans cet appel à projet. Et puis aussi des lieux qui étaient encore exploités, mais mal exploités. Je pense à la gare des Invalides. Peut-être que Dominique...
Je vais faire les transitions à chaque fois. Vous
en dire un mot. Non, mais je veux surtout pas anticiper ni lui donner l'impression que je marche sur ses plates-bandes. Mais franchement, j'ai été stupéfait quand j'ai demandé à la direction de l'urbanisme de me faire la liste de tous les lieux que l'on pourrait mettre en compétition dans le cadre d'un appel à projet sur les sous-sols, du nombre de... Et encore, il y en a certains que nous n'avons pas pu mettre parce que, par exemple, les conventions de certains parkings désaffectés faisaient qu'on ne pouvait pas les transformer. Donc là, on se heurte aux rigidités réglementaires à la française. Je pense également à un lieu que j'ai trouvé formidable, qui était l'arrivée des camions aux abattoirs de la Villette. Un sous-sol absolument magnifique que je n'ai pas pu non plus, pour des raisons techniques, mettre dans l'appel à projet.
On va parler de ce que vous avez pu mettre. Il y a quand même beaucoup de choses.
Je peux vous dire que Paris regorge de bijoux en sous-sol.
Paris, belle, au-dessus et au-dessous. Vous le savez bien, Dominique Perrault, vous qui dites, le parking, c'est un lieu de ressources. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Alors, d'abord, je voudrais prolonger le propos de Jean-Louis sur la question du 19e siècle. Ce qui était vraiment extraordinaire au 19e siècle, c'est la relation justement entre toute cette ingénierie, qui se développait dans le sol et qui faisait vivre, et là c'est là où apparaît la ressource, l'ensemble de la ville, non seulement les logements, mais aussi l'ensemble des services, des équipements, etc. Cette ingénierie se développait aussi au niveau des parcs et jardins. Il y avait une espèce d'intelligence incroyable, d'interaction, mais c'était lié aussi à l'époque, à une culture qui était une culture qui englobait tous les arts, si je puis dire, dans un seul et même mouvement. Donc il y avait là une ville qui avait cette espèce de capacité de résilience. D'ailleurs, sous la présidence de Jean-Louis, il y a eu une très très intéressante exposition au pavillon de l'Arsenal sur Haussmann, qui montrait bien qu'il y avait une ville. Voilà, pour dire les choses simplement, une ville.
Sous la ville.
Voilà. Et qu'il n'y avait justement pas cette séparation, tout au moins, elle était pensée. La question des parkings, c'est qu'arrivent des éléments qui sont autistes, et qui viennent pour des raisons d'aménagement, parce qu'on a quand même, il faut quand même reconnaître, à la deuxième moitié du XXe siècle, on a quand même aménagé ce pays. Donc, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain.
Quand vous dites autisme, ça se rapporte à l'autisme ou à l'automobile?
Ça se rapporte à l'autisme dans le sens où le parking n'a aucune relation avec la structure urbaine. C'est comme le disait Jean-Louis, c'est une boîte en béton qui a sa propre fonction, qui est quand même réduite à sa plus simple expression. Et donc, elle n'a pas de connexion, si je puis dire, presque organique avec ce qui l'entoure. Donc, c'est ce sujet-là et ce sujet de ressources pour répondre en partie à votre question, c'est que ces volumes sont extrêmement nombreux, ils sont extrêmement bien placés. Nous avons recensé, et encore nos calculs sont assez faux, des millions de mètres carrés sous l'espace public, et on ne sait pas combien il y a de milliards de mètres carrés sous les bâtiments privés. Parce que là, on a, à un moment, la ville de Paris, dans sa grande générosité, imposé une règle de construction de parking supérieure à la moyenne nationale. Donc ça veut dire qu'on a des ressources incroyables sous les logements, sous les bâtiments dans la ville. Donc c'est cette ressource-là qu'on veut faire apparaître, la transformer, la révéler. Et pour cela, nous sommes pas trop d'être quatre autour de cette table pour essayer d'y arriver.
Et Alain Segaré, justement, quel est le regard sur ces questions? Parce que vous êtes un acteur important justement sur ces projets.
Un acteur important, un acteur, un acteur spécialiste d'une question qui est celle de la mobilité des biens. Ça a été dit tout à l'heure. Parmi les questions, on va dire, qui se posent aujourd'hui à la ville moderne, il y a celle de pouvoir mieux organiser, mieux réguler la mobilité des biens. Christian disait tout à l'heure qu'il fallait viser le toujours moins. S'il y a bien un secteur dans lequel on sait qu'on n'y arrive pas et qu'on va sans doute pas y arriver dans les années qui viennent, c'est précisément celui des flux de marchandises. On est quand même confronté aujourd'hui à une problématique du toujours plus qui est directement liée au fait que les modes de consommation aujourd'hui génèrent des flux de marchandises. C'est la livraison, c'est la distribution en quelques heures des marchandises. C'est aussi l'optimisation de toutes les chaînes d'approvisionnement, y compris de la grande distribution. Bref, voilà un sujet qui globalement aujourd'hui vient, je dirais, se confronter de manière assez claire et assez forte sur ce que peut être l'aspiration à une ville davantage pacifiée. Et en l'espèce, il est vrai qu'il faut trouver des ressources, et notamment des ressources immobilières, pour participer à une meilleure organisation de ces flux de marchandises. En tout cas, c'est la mission que s'assigne aujourd'hui Segaris et ses mandants. Et dans ce contexte-là, de fait, les parkings, les sous-sols, de manière générale, constitue, comme l'a bien dit Dominique, une ressource extrêmement précieuse. Alors, qui s'exploite pas malheureusement aussi simplement qu'on le souhaiterait. Il faut pour le coup de la technicité architecturale, de la technicité aussi réglementaire. Jean-Louis l'a dit tout à l'heure, c'est un vrai sujet aussi de réussir à rendre compatibles les usages adaptés de ce type d'espace avec ce qu'est aujourd'hui la réglementation. Mais allez, on va être optimiste et on va au moins pouvoir se dire que chez Segaris, comme chez d'autres d'ailleurs, on y parvient. Et l'objectif, c'est de pouvoir démontrer que, au-delà, je dirais, de quelques exemples dont on va assurément parler, j'en suis certain, il y a plus largement un devenir réel pour la transformation de ces millions de mètres carrés qu'évoquait à l'instant Dominique.
Certains veulent un big bang de la logistique urbaine. Petite question, est-ce qu'il y a ce clivage privé-public sur ces questions-là ou il y a quand même une convergence de réflexion là-dessus?
C'est aujourd'hui un secteur qui est totalement concurrentiel, où finalement le secteur public a une place relativement timorée. Et pour lequel on peut quand même se le dire, il y a eu une forme de désintérêt relativement forte de la part de l'ensemble des acteurs publics pendant de nombreuses années. Les choses sont largement en train de changer. Clairement, je le dis ici, je pense que Jean-Louis a participé à faire bouger les choses, notamment lorsqu'il était à la ville de Paris. Segaris est une société qui compte parmi ses actionnaires des acteurs publics. Et il me semble que c'est extrêmement important justement de pouvoir préciser, proposer un modèle qui soit entre le public et le privé, avec finalement l'objectif de pouvoir se déployer sur un secteur concurrentiel qui a ses propres codes, qui sont ceux globalement du marché, mais en même temps des enjeux d'intérêt général qui sont absolument centrales, comme par exemple la problématique de la décarbonation des flux. La logistique urbaine, c'est un développement durable. Il n'y a pas d'autre avenir pour la logistique urbaine que celui, je le disais tout à l'heure, d'une mobilité des biens qui soit compatible avec ce qu'est aujourd'hui les objectifs de la ville durable. C'est un premier sujet. Il y a un deuxième sujet, mais il y en aurait d'autres. Je citerai au moins celui-ci. C'est que c'est aussi un enjeu de souveraineté. C'est un enjeu de souveraineté parce que aujourd'hui, mis à part la France, mais dans beaucoup de pays européens, l'infrastructure immobilière logistique est une infrastructure immobilière souveraine. Et donc, il est important de pouvoir en maîtriser la destinée parce que, au travers de cette action-là, on a aussi la capacité de pouvoir, je dirais, pour les territoires en tout cas, choisir la manière dont, je disais tout à l'heure, la mobilité des biens s'organise.
Alors, c'est à la fois un défi environnemental, un défi technologique, un défi sociétal. C'est ainsi que vous voyez les termes de l'équation, Jean-Louis Missika?
Ah oui, oui, oui. On peut même rajouter politique.
démographique.
Et démocratique. Jonathan y a fait allusion. Effectivement, nous voyons bien, on le voit sous nos yeux. D'abord, on voit la révolution des données. C'est-à-dire que c'est la data. Dans le jargon anglo-saxon, on dit data-driven mobility, la mobilité pilotée par les données. Et nous savons très bien que l'enjeu de souveraineté, il se situe de ce côté-là. Et donc, on a un choix, somme toute, assez simple à faire, les villes. Soit on donne les clés de la cité à Google, Uber et Amazon. soit on est capable de créer nos propres outils de pilotage de la mobilité. C'est aussi simple que ça. Et je peux vous dire que c'est un enjeu qui ne se situe pas à un horizon de 20 ans. Pour moi, c'est un enjeu qui se situe dans les 5 prochaines années. Absolument. Soit nous sommes capables de régler ce problème-là dans les 5 prochaines années, soit le futur maire de Paris sera le président de Google ou le président d'Amazon.
Facebook, il a une période difficile en ce moment. Mais effectivement, non, puisqu'il y a de l'actualité sur Facebook, je disais dans ces GAFAM, ils peuvent avoir des passes difficiles, effectivement.
Oui, mais enfin, vous savez, ce qu'on apprend sur Facebook et qui surprend certaines personnes, moi je n'ai pas du tout été surpris, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis des années. Ce qu'on apprend sur Facebook, c'est tout simplement que c'est une institution politique privée, que ce n'est pas une entreprise. Voilà.
C'est vrai.
Et que donc,
non réglementé
et mondial. Voilà. Donc, à un moment donné, la question de savoir qu'est-ce qu'on fait devrait se poser de façon un peu. Et ayez bien conscience qu'en disant cela, je ne m'éloigne pas du tout de notre sujet. On est en plein cœur du sujet parce que la souveraineté des villes sur leur territoire et sur leur mobilité est un enjeu, à mon sens, essentiel. Alors malheureusement, je constate que c'est pas de ça dont on débat, ni dans la campagne présidentielle, ni dans les campagnes municipales, mais enfin, c'est comme
bon,
ça. Hein,
on va voir, ça fait que commencer.
On va. Et donc, je termine brièvement. Vous parlez de la séparation entre le public et le privé. Moi, j'ai avancé le concept de commun urbain et de gouvernance partagée des communs urbains. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution que de mettre autour de la table toutes les parties prenantes et de faire en sorte que cette table ne soit pas une table de négociation, mais soit une table de gouvernance. Ce n'est pas la même chose. Et donc, j'insiste sur ce point, je pourrais le développer si ça vous intéresse, mais la solution, c'est que les acteurs publics, les acteurs privés, les acteurs associatifs, les citoyens soient autour de la même table et que ce soit une table de gouvernance et non pas une table de négociation.
Alors, on parle de gouvernance de projet. Dominique Perrault, il en fait des magnifiques projets. Quelles applications voyez-vous sur ces sous-sols? Quel potentiel de réalisation?
Toujours pour enchaîner par rapport à Jean-Louis, parce que je pense que la question de la gouvernance est un sujet évidemment politique, central. Et pour moi, il y a une conséquence, c'est qu'on pourrait planifier. Parce que si il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas de planification.
Planifier quoi précisément?
Planifier, c'est par exemple définir un système de granulométrie, si je puis m'exprimer ainsi, sur tout, en ce qui concerne toutes les plateformes logistiques. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système où il y a des très grandes plateformes logistiques qui sont basées là où il faut, c'est-à-dire là où il y a des trains, des avions, etc. Donc des milliers de mètres carrés où là, il y a des camions qui arrivent, etc. Mais ensuite, pour rentrer dans la ville, c'est une galère. Ensuite, pour trouver des espaces pour stocker, c'est une galère. Donc en fait, ça ne marche pas. Ça marche pas parce que il y a une, ça marche pas pour l'instant. Mais effectivement, ça va marcher vite parce qu'il va falloir que tout le monde s'adapte parce que on peut pas dire que lorsqu'on a une entrée de parking à 2,40 m de hauteur, on peut pas rentrer. Arrive un moment, il faut rentrer. Donc il faut modifier cette espèce de, je dirais presque de flexibilité, de souplesse, de passage, de façon à ce que ça soit fluide jusqu'au pas de dernier kilomètre, jusqu'à près de chez soi. C'est-à-dire qu'on est, on n'est pas du tout dans des systèmes de circonférence avec le près, le moins près, le etc. Non, non, on est, c'est direct à la maison, direct au bureau, etc. Donc là, il y a un travail vraiment d'évolution de toute la chaîne, si je puis dire, de façon à ce que ça arrive, j'irai, à la maison. Et ça, c'est un élément sur lequel il faut réfléchir, parce qu'aujourd'hui, on a plutôt des systèmes qui butent sur le fait qu'ils arrivent jusqu'au bord de la ville, mais ensuite, lorsqu'ils sont dans la ville, ça crée plus de nuisances qu'autre chose. Donc, et ça répondrait, par exemple, à des sujets que nous connaissons bien autour de la table. Par exemple, la poste. La poste, aujourd'hui, je crois, peu importe mes chiffres, si je me trompe de quelques millions, mais ça croît d'à peu près de 100 millions de colis par an. Ils ne savent pas où les mettre. Ils ne savent pas où les mettre. Donc
c'est des entrepôts, des hubs.
La croissance, ouais. Enfin, je veux dire que c'est un sujet physique qui est immédiat et justement, on parle de planification parce que il faut de la data, il faut identifier tous les espaces qui sont vacants, les espaces qui sont libres, il faut faire avec ces espaces et surtout, il faut pas les laisser à l'abandon. Donc, voilà.
Christian Clairet, oui, je vous redonne la parole.
Je rebondis sur les propos de Dominique puisque j'ai travaillé une dizaine bien d'années sûr. À la Poste
ouais.
sur l'immobilier. Sur la poste, c'est juste pour abonder dans son sens. C'est vrai que c'est une discussion qu'on a souvent eue avec les maires, pas seulement la mairie de Paris, mais l'ensemble des maires de France, enfin des villes. Il y a des autorités organisatrices des transports humains,
oui.
hein, des transports humains. Il n'y a aucune autorité organisatrice des transports des biens en ouais. France. Hein. Alors, on en a déjà parlé, Jonathan, ces idées-là progressent. Hein, petit à petit, la sphère publique se saisit de la question.
On a vu que le fret ferroviaire a été longtemps oublié. Hein, c'est un exemple.
La profession logistique est une profession extraordinairement émiettée, avec quantité de sous-traitants. Enfin, les problèmes d'organisation sont considérables. Et l'absence de planification que Dominique met en lumière est un enjeu essentiel. Hein, essentiel pour la ville d'aujourd'hui et pour la ville du futur.
Et je précise que Dominique Perrault finalise un travail magnifique à la Poste du Louvre. Et c'est effectivement un des grands chantiers, un des gros projets de la réinvention de Paris.
Il y aura une plateforme logistique en sous-sol.
Pour poursuivre. Pour une fois, la ville de Paris a anticipé le phénomène, puisqu'au moment de la modification du PLU de 2016, nous avons fait rentrer les espaces de logistique urbaine de proximité dans la catégorie Synaspic. Alors c'est un jargon, mais ça veut dire simplement que c'est considéré comme un truc important et utile et qu'il y a une priorité. Et nous avons fait un maillage du territoire parisien de façon à ce que à ce concept très abstrait de la logistique du dernier kilomètre puisse correspondre des sites de logistique de proximité qui soient à moins de 1 km des uns et des autres. Voilà. Et donc, alors naturellement tout ça est théorique puisque c'est juste dans le PLU, mais enfin déjà l'outil réglementaire est là et ça permet de faire de la préemption, ça permet d'obliger quand il y a des travaux importants de créer cet espace de logistique de proximité, etc., etc. Je pense que c'est un outil très très utile.
Je reviens sur le concret. Je me suis laissé dire, Jonathan Seban, que vous avez gagné deux des appels à projets dont on parlait précédemment. Alors voilà, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qui est prévu? Qu'on essaye de visualiser un petit peu ce qui est possible.
Je vais essayer d'être précis. Juste un mot, parce que je pense que ça va mieux en le disant. Il faut vraiment se rendre compte que le potentiel de transformation, alors on parle des sous-sols, mais en réalité, ça peut concerner, je dirais, tout un ensemble de surfaces dans la ville.
Les délaissés urbains en général.
Absolument. Le potentiel de transformation, il est aussi très dépendant du moment où on les regarde. Pourquoi je dis ça? C'est parce que La logistique urbaine, c'est vrai qu'on en parle depuis un moment, mais il faut vraiment se rendre compte qu'on est aujourd'hui sur un marché qui se construit et qui se construit très très vite. Donc c'est aussi ça, à un moment donné, qui offre un levier vraiment neuf pour faire des choses dans les sous-sols, au niveau des délaissés, sous les infrastructures, qu'on n'aurait pas pu faire avant. Et donc c'est aussi ce qu'on dit souvent, c'est un momentum. C'est-à-dire il y a une fenêtre de tir. Jean-Louis Misica disait tout à l'heure que en matière de données, on avait 4 ou 5 ans pour agir. Je pense qu'en matière de logistique urbaine, on est aussi dans un pas de temps qui est très court, c'est-à-dire qu'on a une capacité aujourd'hui à transformer l'essai sur un certain nombre de choses. Peut-être que ce sera plus difficile de le faire demain, ou en tout cas à la faveur d'évolutions qui sont plus incertaines. Voilà, quand on a dit ça, j'en arrive à ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'effectivement, on a regardé notamment deux sites dans le cadre des opportunités qui ont été offertes par les appels à projets portés par la ville de Paris. Un site qui est situé Porte de Champéret. Alors, c'est au bord du boulevard périphérique, c'est une ancienne station-service. Donc on vient vraiment sous l'infrastructure, notamment sous la bretelle d'accès, avec aujourd'hui un projet qui est en cours de transformation de cette ancienne station-service en un espace dédié à la logistique urbaine. Et en l'espèce, ce que disait tout à l'heure Dominique Perrault est essentiel, c'est-à-dire qu'on est venu, tordre les codes standards de la logistique, c'est-à-dire qu'on n'a pas une hauteur de 4,50 m, et pourtant, on va réussir à le commercialiser. On n'est pas sur un site qui est, facilement dédié à ce type d'activité, et pourtant, on réussit à le transformer en y mettant notamment des locaux sociaux, enfin, tout un ensemble de choses qui rend cet espace vivable pour des travailleurs au quotidien. Donc voilà un site qui, à un moment donné, passe d'une station-service sous le boulevard périphérique à un site de logistique urbaine. On peut en citer un autre dont on a pas mal parlé, donc c'est aussi intéressant d'en parler ici. Donc c'est effectivement dans le 3e arrondissement de Paris, c'est un ancien parking. Pour le coup, on y est, un ancien parking automatisé. Il y en avait deux à Paris. Celui-ci a globalement...
C'est ça.
Voilà, c'est ça. A quand même...
Ascenseur à voiture,
mais pas adapté au nouveau gabarit des véhicules. Donc c'est vrai que le dernier à avoir utilisé le parking, malheureusement, s'en souvient encore, je pense.
Il y est toujours.
Voilà, il y avait un enjeu à pouvoir en faire autre chose. Et donc à cet endroit-là, site que Sogaris a acquis il y a de cela une semaine d'ailleurs, on vient le transformer pour en faire un site dédié à la logistique urbaine, avec, si on peut aller encore un peu plus loin sur cet enjeu de la distribution des biens, une logistique qu'on tourne essentiellement vers le quartier. C'est-à-dire qu'il y a énormément de flux qui circulent en ville, on en parlait. Ces flux sont très segmentés. Tout à l'heure, Christian disait que c'est un système qui est très complexe. Il n'est surtout pas unifié. Et il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de flux extrêmement locaux qui mériteraient d'être davantage structurés pour éviter notamment toutes les nuisances qu'ils génèrent. Imaginons par exemple que beaucoup d'artisans à Paris, ils ont pour seul entrepôt leur camionnette qu'ils n'ont autre choix de laisser stationner sur des places
juste en face souvent de leur magasin.
Absolument.
Quand ils y arrivent.
Ce qui est très compliqué. Donc voilà un site qu'on escompte pouvoir, sur lequel on est lancé dans sa transformation. Ce sera un site donc de logistique urbaine de 1600 m².
Oui, Dominique Perrault, vous voulez intervenir.
Oui, pour aller encore un petit peu plus loin par rapport à la question de la logistique urbaine, c'est-à-dire que ce qui est absolument intéressant dans les parkings, c'est la résilience de cette structure. On a une structure qui est enterrée, donc elle est inerte. On a des questions de chaleur qui sont stables, même qui peuvent être élevées, car tous les transports, le métro en particulier, dégagent beaucoup de chaleur. Donc il y a des niveaux de parking qui sont à moins 5 étages en dessous du sol, où il y a 30 degrés. Quoi. Donc si vous voulez, donc il faut aussi comprendre le parking comme un lieu de résilience, un lieu qui est par nature durable. Alors, lorsqu'on a dit ça, on n'a pas fini, parce que le parking, il a 4 côtés, disons. Il a la partie du dessus, où là, on voit assez vite qu'il faut la mettre en relation avec l'espace public. Elle doit prolonger l'espace public. Elle est vraiment, je dirais, à portée de main ou de pied. Donc, elle est à fleur de rue. Il y a la partie des côtés. On voit que les murs des parkings, si l'on les perce, eh bien tout de suite, on a des contacts, soit avec les transports publics, soit avec d'autres installations, de façon à créer des synergies. Et donc, on entre là dans une dimension plus immobilière. Et puis, il y a la partie du dessous. On peut stocker de l'eau, on peut stocker de l'énergie, on peut avoir des notions de géothermie. Donc, en fait, le parking n'est pas une boîte, si je puis dire, autiste, comme on l'a évoqué précédemment. C'est justement ce lieu de ressources, mais de ressources, c'est un bâtiment. Voilà, c'est un bâtiment. C'est-à-dire il faut le comprendre comme un ensemble qui va pouvoir accueillir dans certains cas de la logistique, dans d'autres cas des activités, dans d'autres cas de l'énergie, etc. Donc je pense que c'est vers ça que nous allons. C'est-à-dire que il y a une dimension extrêmement contextuelle du parking, et ça, je trouve que c'est passionnant, parce qu'on ne peut pas développer un projet générique. On est obligé de développer des projets qui sont en relation avec la rue, avec la densité de population, avec le type de service qu'il y a au-dessus. Donc c'est un vrai projet de quartier, c'est-à-dire le parking n'est pas indépendant de ce qui tourne autour de lui, voilà.
C'est vrai, Christian Clairet, parking réaménagé, autopartage, on se rend compte que ce territoire qui était un peu négligé, en tout cas connoté négativement, c'est peut-être un potentiel qui a plein d'avenir, non ?
Ah bah absolument, enfin, moi je ne peux qu'abonder dans le sens de Dominique et de Jean-Louis précédemment, enfin, et également de ce que disait Jonathan. Revenons au 19e siècle dont parlait Dominique et de cette vision globale de la ville. Je crois que l'enjeu majeur, c'est de revenir à cette vision absolument globale, hein, absolument globale, aussi bien en surface. On peut considérer qu'aujourd'hui, on raisonne assez correctement, enfin, je dis assez correctement, sur ce qui se passe au-dessus du sol. Le grand enjeu, enfin, l'un des grands enjeux, pas le grand enjeu, mais l'un des grands enjeux, c'est de réfléchir global, en dessous du sol, en cassant ces barrières étanches entre le sous-sol des bâtiments et le sous-sol de l'espace public. Il faut que la ville du sous-sol soit conçue, réfléchie, comme étant en lien avec le dessus, bien sûr, mais entre elles.
Et oui. Ça se crée un nouveau réseau.
Et qu'on ait une vision de la ville du dessous. De la ville du dessous. Par ailleurs, la deuxième grande question, il y a déjà eu de nombreuses conférences sur le sujet. On n'est pas en train d'inventer la poudre, mais nous, notre rôle à Herbert, c'est d'interpeller deux industries qui s'ignorent, hein, qui se parlent très très peu. Donc on n'est pas prétentieux, on ne dit pas qu'on a la solution, on dit parlez-vous. Aujourd'hui, on est dans une révolution des modalités de transport. Hein, des modalités de transport, la baisse de l'automobile en ville, Paris, c'est moins 30% en 15 ans, enfin je ne sais plus quels sont les chiffres exacts.
Oui,
et donc on a une libération de l'espace public qui est très très importante. Qu'est-ce qu'on en fait ? Quelle nouvelle relation entre le bâtiment et l'espace public sur... C'est des questions absolument, absolument centrales dont les urbanistes, les architectes, le monde politique a à se saisir. Et tout ça passe, moi j'en suis convaincu, ce que je mets en haut de la pile, c'est la gouvernance. Hein. Franchement, je pense que sans une gouvernance adaptée, on aura énormément de difficultés. Et je ne parle pas d'une gouvernance autoritaire. Ça peut être des gouvernances de concertation, telles que Jean-Louis Missica la décrivait. N'ayons pas la naïveté de croire qu'au motif du développement durable et de la mobilité, on va réformer la compétence des collectivités locales en France demain matin. Hein, je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc il faut inventer des solutions plus souples, mais tout aussi efficaces.
Oui, Christian Clairet, à juste titre, vous rappelez, faites référence à ce groupe de travail RBRT pour territoire. Jean-Louis Missica, vous pensez que c'est parking, c'est sous-sol dont on parle, caché au vu du jour, mais finalement ce sont des territoires à part entière pour vous ?
Bah écoutez, je pense que je ne peux qu'aller dans le sens
de ce qui a été dit.
C'est-à-dire, la ville du dessous, elle doit interagir avec la ville du dessus de façon beaucoup plus intense. Le sujet, c'est l'intensification des usages. C'est vraiment ça. Et la diversification des usages. Par exemple, on parle beaucoup de la logistique pour les parkings, mais enfin, sachez qu'on fait aussi de l'agriculture urbaine dans les parkings. Et que ça marche très bien. Et on fait également du stockage pour les particuliers dans les parkings, et que ça aussi ça marche très très bien. Donc on fait de la réparation de vélos à partir du moment où il y a la source de lumière naturelle en zénithale suffisante pour pouvoir avoir des gens qui y travaillent. Donc on voit bien que les solutions sont multiples et variées, et qu'il y a des obstacles à franchir. Parmi ces obstacles, alors il y a bien sûr ceux physiques qu'a évoqué Dominique. Moi, je rajouterais les obstacles juridiques. Quand j'ai fait cet appel d'offres sur les dessous de Paris, je me suis heurté à des casse-têtes, mais absolument incroyables sur la propriété, sur les titres des propriétés de sous-sol. On a mis le tunnel des Champs-Élysées, de l'Étoile, pardon, dans l'appel à projet. Mais enfin, il faut savoir que le travail pour savoir à qui appartenait quoi dans le sous-sol de l'Arc de Triomphe, entre la ville, l'État et la RATP, mais ça a pris des mois et des mois au notaire.
Ça appartient aux soldats inconnus, ma parole.
et j'ai eu le même problème pour le boulevard Haussmann à la hauteur des grands magasins. Et parfois, vous heurtez à des impossibilités totales, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de faire communiquer un espace public et un espace privé, alors même que, Dominique a raison, si nous voulons intensifier les usages des sous-sol, il faut qu'ils se transforment en réseau et qu'ils cessent d'être des boîtes. Mmh. Et donc, là, on a un sujet juridique absolument magnifique qui est celui, justement, de la gouvernance des communs urbains. C'est-à-dire, comment transformer un sous-sol privé et un sous-sol public en un commun urbain.
La réglementation est trop restrictive, quoi, en France. Mais qui va
se
charger de...
Oui, c'est le droit de la propriété française.
Ouais.
Et c'est la muraille de Chine que peut-être à juste titre, l'administration publique a construite entre le public et le privé. Mais ça dépend vraiment du législateur. Il suffit de modifier le code de l'urbanisme, le code de la propriété, si vous voulez faire en sorte que ces objets puissent simplement être fusionnés. La question, c'est est-ce que vous pouvez faire avec deux espaces un seul espace? Voilà. Est-ce que vous...
Pardon, allez-y, allez-y. J'attends. Il y a des villes dans le monde où le foncier est propriété publique. Il y a séparation de la propriété du foncier et du bâti. Est-ce que ça se passe mieux?
Écoutez, le grand exemple, c'est Montréal.
Oui.
Montréal qui a réussi à faire une ville souterraine où l'on circule. Alors, ils avaient des raisons, je dirais, climatiques, de faire cela. Mais enfin, nous avons au moins un exemple précis qui montre que ça a du sens de pouvoir faire communiquer les espaces publics et les espaces privés en sous-sol.
Vous vouliez ajouter quelque chose?
Je pense que sur la réglementation, il y a plusieurs choses. Il y a aujourd'hui un élément assez clair sur le fait de réutiliser, d'intensifier l'usage dans ces parkings, c'est qu'il y a, me semble-t-il, un retard de la réglementation sur ce que sont ces nouveaux usages. Voilà, je donnerai deux exemples qui vont être, je pense, assez éloquents. C'est assez compliqué d'aller positionner des bornes de recharge électrique dans les parkings en permettant d'y faire à minima une activité de logistique urbaine qui soit relativement efficace. Dit autrement, c'est plus facile d'installer une activité de logistique urbaine qui utilise des véhicules diesel dans des parkings que des véhicules propres.
Dommage.
On voit que c'est quand même... Non, on voit que c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'y compris même pour des investisseurs qui se disent « Ma foi, il y a un vrai sujet, allons-y, portons la transformation. » Je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas d'avenir pour cette question de la logistique urbaine si elle n'est pas connectée à des enjeux de développement durable. On voit que là, on se heurte à des problématiques centrales. Je prends un autre exemple. Tout à l'heure, Dominique Perrault insistait sur le fait qu'il faut pouvoir diversifier les utilisations de ces sous-sols. Donc admettons qu'on ne soit pas obligé d'y mettre que la logistique urbaine, mais pourquoi pas aussi pouvoir mixer, notamment lorsqu'ils arrivent sur la rue, du commerce et de la logistique urbaine. On se dit instinctivement tiens, le commerce pourrait peut-être utiliser du coup les arrivées de la logistique urbaine pour optimiser. Et c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on a deux types de réglementations qui imposent une étanchéité totale entre les coques. Et donc, globalement, vous avez un commerce qui doit utiliser son propre accès et la logistique urbaine qui va utiliser le sien. Donc, tout ça est sans doute pas insurmontable.
Non.
Je pense qu'il faut faire confiance à l'intelligence collective sur le fait qu'on arrivera à trouver des solutions. Mais c'est quand même un sujet et je pense à minima que la réglementation est en retard aujourd'hui sur ce que sont les nouveaux usages de la ville et ce qu'ils peuvent être dans une vision qui est une vision effectivement projetée d'une ville réellement plus durable, qui globalement essaye d'intensifier les usages partout où c'est possible. Et les sous-sols sont, à mon avis, un élément essentiel.
Dominique Perrault,
je partage totalement cette analyse.
Très bien. Dominique Perrault, vous dites que le sous-sol des villes est la frontière immobilière du 21e siècle. Alors, vous arrivez à vous faufiler, à avancer vos projets dans cet imbroglio de réglementation à la française?
Oui, on se faufile, mais surtout ce qu'on cherche, et je crois que autour de la table, nous avons un peu le même objectif, on cherche des démonstrateurs. Parce que ce sont des lieux qui sont quand même chargés d'angoisse. C'est des lieux qui sont... Il n'y a pas de lumière, ils sont humides, ils sont dangereux, etc. Donc le sous-sol n'est pas l'endroit où on va se promener par délice. Voilà. Alors, il y a une dimension psychologique qui est importante et pour... Euh, qui, qui aussi participe de notre discussion. Et donc, il faut qu'on ait mettre en place des démonstrateurs de façon à ce que ça devienne évident. C'est vrai que j'ai construit quelques bâtiments qui travaillent avec le sol. Bon, évidemment, un des plus en France, c'est la Bibliothèque nationale, mais en Asie, l'Université des femmes de Séoul, et on travaille sur un très grand hub urbain à Séoul, avec de la lumière naturelle également, avec l'interaction entre les différents moyens de transport. À partir du moment où le projet est physiquement réalisé, il n'y a même pas de question. C'est surréaliste. C'est-à-dire que autant il y a beaucoup de réflexions, de débats, de critiques, même au moment de la pensée du projet, si je puis dire, mais lorsqu'il est fait, lorsqu'on le vit, les gens ne s'aperçoivent même pas qu'ils sont dessous.
Vous êtes d'accord, il faut des démonstrations.
Ouais. Donc, il nous faut des démonstrateurs, il nous faut des lieux, il nous faut des situations qui permettent de faire comprendre et partager que c'est non seulement possible, mais c'est formidable.
Est-ce que vous pouvez nous parler de votre partenariat avec Indigo ? Voilà un grand acteur des parkings, ça parle à tout le monde. Et là aussi, vous essayez d'innover ?
Oui, avec Indigo, en fait, on a mené une réflexion sur le parking du futur. Donc ça, c'est un travail plutôt de consultant. Et on a développé justement ces approches, comme j'ai pu le faire un petit peu ce matin, sur la plasticité de ces boîtes en béton. Par contre, ce que nous faisons aujourd'hui avec Indigo, c'est pas par contre, c'est nous poursuivons avec Indigo un travail qui est un travail plus universitaire, puisque moi j'ai créé un MOOC à l'École Polytechnique de Lausanne j'avais un laboratoire qui s'appelait Sublab, et donc ce MOOC traite du dessous. Ce MOOC est assez suivi, mais pour que les étudiants le suivent encore mieux, il faut des profs qui leur répondent de par le monde, etc. Donc j'ai sollicité Indigo pour porter ce MOOC pour la saison 2021. Et donc, on va avoir plusieurs professeurs qui vont être en interaction avec les étudiants, car c'est un MOOC d'architecte. Et donc, à la fin de chaque leçon, il y a un exercice d'architecture. Et donc, ce que je veux dire, c'est que à l'issue de ces 5 leçons, eh bien, il y a un peu une synthèse, des projets de synthèse, et on va organiser jury, etc., de façon à ce que, là aussi, il y ait un mouvement, mais international, parce que un MOOC, les gens sont de par le monde, et donc il y a un mouvement international qui nous revienne ici en France, et cette fois-ci, enfin l'année 21, porté par Indigo. Voilà un exemple de poursuite de la réflexion sur les parkings. Mais on espère bien quand même en construire un. Nous sommes ambidestres, n'est-ce pas?
À la Sogaris, vous avez travaillé également avec la RATP. Là aussi, on parle beaucoup de voitures, de parking. Quelle expérience en avez-vous? Et vous dites aussi, avec la rareté de l'espace en ville, on n'a pas tout exploité en dessous de la ligne de crête. Et la RATP, eux, ils occupent ce terrain depuis longtemps. Ils sont source d'inspiration pour vous.
Absolument, j'espère réciproquement, même si évidemment on n'a pas leur expérience. Le point de départ de ce partenariat effectivement industriel avec la RATP, ben, j'ai envie de dire c'était fondamentalement la note, c'est-à-dire que alors c'était pas la note en tant que telle, mais c'était les réflexions et les pistes de réflexion posées tout à l'heure, Christian. Deux choses. D'abord, on est des acteurs qui avons à la fois un pied dans l'immobilier et dans la mobilité. Nous, plus dans l'immobilier que dans la mobilité, et eux, plus dans la mobilité que dans l'immobilier, même si la RATP peut compter à son tableau de chasse de très très belles réalisations, notamment sur la rénovation de certains garages à bus, notamment à Paris, dans le 20e, rue de Lagny, avec des programmes mix d'une extrême qualité. Et l'approche était au fond la suivante, c'est que ils recherchent des espaces aujourd'hui pour optimiser notamment l'installation des installations pour la mobilité des personnes, là où nous recherchons des espaces pour optimiser, vous l'avez bien compris, les installations pour la mobilité des biens. Plutôt que d'être en concurrence sur la recherche des mêmes espaces, essayons d'être en complémentarité. Et à ce titre-là, on a effectivement travaillé sur un sujet qu'on a appelé les centrales de mobilité. La centrale de mobilité, c'est quoi? Bah, c'est précisément le fait de se dire, sur la base d'un parking, typiquement, parce que c'est sans doute ces usages aujourd'hui qui sont, ces bâtiments, pardon, qui sont les moins valorisés. Essayons d'y faire entrer de multiples usages, à la fois dédiés à la logistique urbaine, mais aussi à l'autopartage, notamment à la mobilité des personnes, je le disais tout à l'heure, qui est un axe de diversification de la RATP. Pour ce qui concerne Sogaris, on a aujourd'hui deux projets de centrales de mobilité sur lesquels on travaille, notamment un à Paris. Voilà, je m'inscris totalement dans ce qu'a dit tout à l'heure Dominique. Il faut qu'on puisse avoir des éléments concrets, des projets qui soient sensibles, présents, pour pouvoir à un moment donné continuer de convaincre sur le fait que il n'y a pas de fatalité à ce que ces parkings soient durablement vides, mais qu'il y a au contraire une opportunité à ce qu'ils soient prochainement le lieu de multiples usages. Donc c'est vraiment ce à quoi on s'attache à travailler. Et pour le coup, le partenariat avec la RATP avait vraiment cette visée, et il l'a toujours d'ailleurs, de pouvoir délivrer dans un temps qui sera un temps le plus court possible des pistes de démonstration que ces fameuses centrales de mobilité sont un avenir, un parmi d'autres, pour la réutilisation de ces parkings.
Jean-Louis Missika, oui. Jonathan Saman a utilisé des mots importants, autopartage, oui. Mobilité comme service, oui. Ça c'est des notions importantes pour vous pour le développement futur.
C'est fondamental, la mobilité comme service c'est l'avenir de la ville, et même peut-être de la campagne. Ce ne sera pas le même service, mais je pense que tout le monde aura à un moment ou à un autre la mobilité comme service, et cette notion de mobilité comme service renvoie à la notion d'intermodalité, c'est-à-dire que si vous décidez que les gens ne sont pas propriétaires d'un outil de déplacement, mais sont au contraire les usagers de toute une gamme pluriel de services de mobilité, ben il faut qu'il y ait des endroits où on puisse passer de l'activité piétonne à l'activité train, voyageur de train ou voyageur de métro ou vélo, etc., etc. C'est un des grands combats que j'ai mené lors de la mandature précédente contre le projet de la gare du Nord, c'est que j'étais absolument furieux que ce projet ne soit pas pensé d'abord comme un lieu d'intermodalité. Et je ne peux que me réjouir que ce projet soit abandonné parce que l'espace nécessaire pour l'intermodalité à la gare du Nord étant extrêmement contraint, il faut penser les gares parisiennes d'abord comme des hubs d'intermodalité. Et donc il faut des parkings à vélo, mais énormes. Si vous voulez vraiment que les gens prennent leur vélo pour aller prendre le train, bah, il faut que la vélostation soit à la dimension des 700 000 voyageurs par jour qu'accueille la gare du Nord.
Puis il faut que ce soit sécurisé, hein, parce que
il faut que ce soit pratique. Ouais. Il faut que ce soit pratique, c'est-à-dire il ne faut pas qu'on mette 3 heures à retrouver son vélo, etc., etc. Nous sommes face à des questions, à des sujets qui sont une importance capitale, qui sont très intéressants en plus, aussi bien sur le plan technique que sur le plan architectural. Et je pense que c'est un défi pour les architectes, pour les logisticiens et bien sûr pour les spécialistes des transports. Et cette notion de mobilité comme service renvoie bien sûr à la question des données, mais également des outils qui sont proposés aux acteurs, aux usagers, pour pouvoir justement faire leur choix entre les différentes formes de mobilité. Et là aussi, je voudrais insister sur un point qui me paraît essentiel. C'est impossible de laisser ces outils à la simple volonté d'opérateurs privés américains, parce que eux, la question de savoir si ça pollue ou si ça congestionne la ville, c'est le cadet de leurs soucis. Vous comprenez ? Et donc, si la ville n'est pas capable de dire, moi, je veux que à telle heure, entre telle heure et telle heure, ce qui pollue le plus dans la ville ne puisse pas avoir accès à telle et telle rue, eh bien, la ville ne sera pas capable de gérer la mobilité propre. Or, ces trois concepts sont liés. La mobilité comme service, la mobilité propre et l'intermodalité. Nous devons avoir une vision complètement nouvelle de la façon de se déplacer en ville et de la façon de transporter les marchandises. Regardez ce qui se passe à New York, c'est proprement stupéfiant. Que fait Amazon ? Amazon a annexé les trottoirs new-yorkais pour en faire des sites de logistique sauvages. Hein, et vous avez parfois, quand vous vous baladez à New York sur les trottoirs, vous voyez des gars qui sont là, qui ont posé des colis tout au long du trottoir, et vous naviguez entre les colis pour pouvoir continuer votre chemin. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour les villes de France ? Je crois que c'est juste une question importante à se poser.
Amazon Land, ouais, si on veut éviter ça. Dominique Perrault, comment on construit les immeubles, les projets immobiliers si on se dit qu'un immeuble, c'est une plateforme de service ? Ça change le modèle de conception.
Oui, enfin, ça ouvre la question programmatique. Et la question programmatique, c'est vraiment une question, parce que Aujourd'hui, on peut se dire, suite aux deux années que nous venons de vivre, est-ce que c'est vraiment pertinent de développer des bâtiments avec des programmes? Ou bien est-ce qu'il ne faut pas développer des bâtiments aprogrammatiques? Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les promoteurs, il n'y en a pas un qui ait fait une étude de marché. Il y a à peine 5 ans, s'ils n'avaient pas leur couloir de 1m40 et les bureaux de 5 mètres d'épaisseur, le projet ne marchait pas, soi-disant. Aujourd'hui, toutes ces considérations n'entrent pas dans la discussion. La discussion est beaucoup plus intéressante, d'ailleurs, avec nos clients, parce que, comme ils n'ont plus de programme, le programme se bâtit ensemble. Et donc, cette notion que vous évoquez élargit forcément les usages. Les usages dans le bâtiment lui-même, que ça soit en pied de bâtiment et aussi souvent au-dessus du bâtiment, enfin, dans la partie toiture. Mais on peut aller plus loin avec cette notion de data. C'est-à-dire que, par exemple, c'est très bien, et tout le monde est d'accord pour avoir un logement plus grand. Un logement plus grand, c'est plus agréable, blablabla. On est d'accord, si ce n'est que ça coûte une blinde et qu'on ne l'a pas forcément sous la main. Par contre, à côté de chez soi, il y a peut-être des espaces qui sont libres, qui permettent d'avoir un complément alimentaire. Et donc, c'est cette notion-là qu'il faut développer. C'est-à-dire qu'il y a le bâtiment lui-même et il y a tout ce qui entoure le bâtiment au niveau du quartier, au niveau de la rue, qui permet d'étendre, si je puis dire, le domaine de la lutte. Voilà.
C'est-à-dire que là, oui. Pardon, non, oui. Pour prolonger ce que dit Dominique, c'est l'industrie de l'immobilier connaît une révolution copernicienne. Elle passe d'une industrie d'une économie de la rente à une économie du service. Et pour certains, c'est douloureux. Hein. Je pense que cette économie de service, elle se double de la révolution numérique, de la transformation numérique. Donc c'est une économie de service numérique. Donc je partage ce que dit Dominique. Je rajouterais alors juste un bémol. Je pense qu'on peut encore dire ce bâtiment doit servir à ça, à condition qu'on dise mais il doit être flexible et réversible, c'est-à-dire il doit servir à ça pour une durée de X années et il faut le concevoir de telle manière que l'activité n'a plus de sens, eh bien la mutation soit extrêmement facile et peu onéreuse.
Un bref mot de conclusion, Christian Clairet. On a vu, il ne s'agissait pas toujours d'avoir plus en la matière. On peut viser plutôt le mieux ou le différent maintenant.
Je crois que le propos de haut niveau que nous venons d'avoir de nos amis montre bien qu'on doit nourrir un peu d'optimisme quand même. Je pense que ce qui est en jeu et ce que l'on cherche modestement à favoriser, c'est le changement de regard. C'est la prise de conscience que les problèmes sont plus globaux. Alors, on peut avoir quelques notes d'optimisme sur ce sujet. Moi, j'observe que le drame de l'épidémie que l'on vient de vivre a quand même démontré qu'on était capable de changer le mode de fonctionnement des villes à une rapidité invraisemblable. Qui aurait pu l'imaginer quelques années et quelques années avant? Donc il y a quand même des acteurs, des politiques, industrielles, économiques qui sont capables de faire preuve de beaucoup d'agilité. Moi, je retiens quelque chose d'absolument essentiel de notre débat, c'est cette nécessité absolue pour favoriser le changement de regard et cette vision plus globale, d'expérimenter, d'avoir des démonstrateurs, de rendre les opérations désirables, hein, pour utiliser un terme un peu galvaudé, mais c'est vrai qu'il faut donner envie aux élus, aux industriels, aux acteurs économiques d'aller vers ça et de ne pas rester cantonné dans le couloir de nage traditionnel où l'industrie les a installés depuis des décennies. Donc je pense qu'il y a quelques notes d'optimisme autour de cette table. On a là des acteurs qui font partie de l'élite dans la réflexion. Il faut que cette réflexion propage, se diffuse, percole dans l'ensemble des industries immobilières et de la mobilité.
Donc effectivement, au lendemain de l'adoption de la loi Grenelle 1, le plan bâtiment durable avait lancé ce groupe de travail, réflexion, bâtiment, responsable et territoire maintenant, et on voit qu'il y a matière, et puis des acteurs éminents, très éclairés pour en parler. Je remercie mes invités, Jean-Louis Messica, senior fellow à London School of Economics, Dominique Perrault, président fondateur du cabinet Dominique Perrault, architecte, également Jonathan Seban, directeur général de Sogaris, et encore merci Christian Clairet de nous avoir fourni cette note de réflexion. C'est pas fini et ce sera l'occasion de nouveaux débats, on espère. Merci à vous.
L'immobilier, partie prenante de la mobilité renouvelée, une table ronde au service du développement de territoires plus responsables et plus désirables, à retrouver sur Radio Immo et Radio Territoria.